Chapitre 6. Entré dans sa maison, Ciccio compta son argent. Il crut rêver en se voyant possesseur d'une somme de 6 carlins, c'est-à-dire une demi-piastre. En supposant que les recettes de chaque jour fussent aussi brillantes, il calcula que les talents de Guetta lui fourniraient un gain de 15 piastres par mois, et à force de chercher, aidé par les lumières de Barbara, il trouva qu'au bout de 3 mois, il aurait en sa possession 45 piastres. Comme il ne savait point se rendre compte de la valeur de ce capital, son imagination déroutée se rejeta sur les assurances de l'aimable Cangia. Sa maîtresse lui avait dit que 3 mois devaient suffire pour faire fortune, et il en conclut sans hésiter que 45 piastres étaient une fortune avec laquelle on pouvait raisonnablement prétendre à l'alliance d'un notaire de Syracuse. Le spectacle du lendemain fut aussi lucratif que le premier. Ciccio exploita successivement les divers quartiers de la ville. Un jour, il s'installait dans le Corso, un autre jour dans la rue de l'Etna, sur la place de l'Éléphant, à la porte de l'Arc de Triomphe, sur le môle, devant les cafés. Les sous pleuvaient, et la réputation de Guetta était si belle que du plus loin qu'on voyait ses cornes dorées, les topatelles s'approchaient comme des nonnes en procession, les polissons accouraient à toutes jambes, et les gendarmes faisaient ranger le monde sans qu'on les en priât. Un matin, la troupe, suivie de ses dilettanti, avait établi son spectacle volant sur la grande place au pied de l'Éléphant de marbre noir. Avec sa grâce accoutumée, la chèvre savante prédisait à une jolie fille qu'elle se marierait bientôt, lorsque Ciccio aperçut au milieu de la foule la figure rusée du vieux muletier de Noto. Malgré la reconnaissance qu'il devait à son trajan pour l'avoir aidé à s'enfuir, cette apparition donna de l'inquiétude au petit chevrier. Tandis que Barbara faisait sa collecte, Ciccio s'approcha du muletier et lui dit à voix basse « Qu'y a-t-il ?»« Du danger !» répondit Trajan. Le spectacle terminé, Ciccio et le muletier se retirèrent dans le coin de la place de l'Éléphant où se tiennent les loueurs de mules et de litières. « Il faut quitter ce pays !» dit le vieux Trajan. « Mais qu'est-il donc arrivé ?»« Ben le voici. Après ta fuite, l'ordinateur a envoyé ton dossier à l'intendance. Un ordre de t'arrêter a dû partir ce matin par l'ordinario. Il sera tout à l'heure à Catane et ce soir les gendarmes se mettront à ta poursuite. »« Malheur à moi !» s'écria Ciccio. « Et que leur ai-je donc fait ?» Tu vas le savoir, on parle à Syracuse de la fille d'un notaire que tu as rendue demi-folle. Son amour a passé, elle veut se marier avec un autre, et pour se défaire de toi, elle t'accuse de lui avoir volé une épingle d'argent. Impossible, dit Ciccio en pâlissant, que le notaire ait inventé cette calomnie. « Je le conçois, mais Angelica n'a point prêté les mains à cette injustice. Elle-même, elle me le répétait encore il y a 8 jours, sur le toit de sa maison. »« Oh, la demi-folie amoureuse peut se guérir en 8 jours. Mais si Cangia ne m'aime plus, au moins ne doit-elle pas m'accuser d'une bassesse. C'est elle qui m'a donné son épingle d'argent et sa ceinture verte. » Amour, changement, trahison, 3 anneaux d'une seule chaîne, dit le muletier d'un ton solennel. Ciccio s'appuya contre une borne. Il brisa en morceaux sa baguette de commandement à laquelle obéissait la docile Guetta, puis il saisit entre ses bras sa chèvre savante en s'écriant : Mais il y a donc de fidèles que les bêtes. Rien que les bêtes, répéta le vieux Drageant. Les chèvres, les mules. Il faut partir, mon garçon. Mais où aller et que faire? Monte dans l'Etna. Au village de Nicolossi, tu demanderas mon confrère Don Gaëtan le muletier. Tu l'aborderas en lui disant ces paroles. Ave Maria. Il te reconnaîtra pour un ami et te donnera des avis utiles sur les moyens d'échapper à la fureur des Carthaginois, peut-être aussi sur les moyens de te venger. Allez, adieu, ne soyons pas plus longtemps ensemble dans ce lieu public. Sainte Agathe de l'Etna, protégez cet enfant. Trajan posa sa large main sur la tête du petit chevrier, en manière de bénédiction, et il entra dans le cabaret des muletiers. Que Sainte Agathe me protège en effet, murmura Ciccio, car je suis perdu. La vieille Barbara, ne voyant plus son fils, était retournée seule à la maison. Ciccio, plongé dans ses tristes pensées, marcha tout droit devant lui, sans savoir où il allait. Voilà donc, disait-il, ce crime dont on me faisait un mystère. On m'accusait d'avoir volé l'épingle d'argent et la ceinture de ma maîtresse. Lâche que je suis. Si j'avais obéi aux ordres de ma mère en tuant le juge athénien d'un coup de carabine, j'aurais purgé la Sicile de l'un de ses oppresseurs et je mourrais moins accablé. Et toi, perfide Cargia, tu te réjouis d'avoir imaginé cet expédient pour te débarrasser de moi. Déshonorer celui que tu aimais, que cela excuse bien ton infidélité. En se plaignant ainsi, Ciccio arriva devant l'église des Bénédictins. La porte était ouverte, on célébrait une grande messe de mariage, et les voûtes frémissaient au son puissant de l'orgue, chef-d'œuvre du célèbre Donato, et qui surpasse en beauté les orgues de Trèves et de Fribourg. Le charme de la musique et la sainteté du lieu, éveillant en lui le sentiment de la piété, Ciccio se prosterna sur le parvis de l'église, à deux genoux, pour implorer la démence du ciel. Un torrent de larmes jaillit de ses yeux. Peu à peu, sa posture devint plus humble, sa tête s'inclina vers le sol. Il s'appuya des mains sur la pierre, puis des deux coudes, et finalement il se coucha, le front posé sur ses bras en cercle, une jambe étendue, l'autre pliée, ses longs cheveux plongés dans la poussière. Un vieux bénédictin s'arrêta sous le portail de l'église à contempler cette image vivante de la douleur. Les mains croisées sur sa longue robe, la tête penchée, le bon moine souriait d'un air d'indulgence et de pitié. Il allait rentrer dans le cloître lorsqu'un sanglot profond du petit chevrier lui remua le cœur. Le bénédictin attendit avec patience que Ciccio se fût relevé. « Mon enfant, dit-il, si c'est le repentir d'un crime qui cause ta peine, que ne vas-tu chercher des consolations confessionnelles ?»« Je suis innocent, répondit le jeune homme. Tu es donc bien malheureux ? Au désespoir, mon père. Je suis persécuté par les étrangers et demain on me mettra en prison, quoique je n'ai commis aucun crime. » Le vieux moine posa un doigt sur sa bouche pour commander à Ciccio le silence et il s'éloigna en faisant signe au petit chevalier de le suivre. Il tira ensuite une clé de sa poche, ouvrit la porte du jardin du couvent et introduisit Ciccio et la fidèle Guetta dans un parterre orné de rosiers grimpants, d'orangers en fleurs et de néfliers du Japon. Le riche couvent des bénédictins de Catane est habité par des moines instruits et charitables. On a pour eux une grande vénération dans le pays, à cause de leur vertu et surtout à cause d'un miracle opéré en leur faveur, dont on peut voir les preuves. Dans la grande éruption de 1669, la lave de l'Etna s'arrêta court à 4 pas des murs du couvent et se détourna subitement pour se diriger vers la mer. La bibliothèque, les collections de manuscrits, de marbre et de bronzes antiques des bénédictins de Catane sont les plus belles et les plus curieuses de la Sicile. Mais Ciccio fut particulièrement charmé par les délices des jardins où l'ombre et l'eau vive rafraîchissent l'air et où poussent la canne à sucre et le papyrus. « Beau fils, dit le moine, quand il fut seul avec Ciccio, je ne suis pas un ministre des vengeances de la loi. Mes questions ne sont point insidieuses. La main que je tends aux faibles est celle d'un consolateur et d'un père. Elle les conduit vers le Dieu de miséricorde et non pas à l'échafaud. Tes réponses ne seront pas inscrites sur ces papiers d'où elles ne sortent que pour accabler le repentir lui-même. Tu peux me parler avec franchise. Raconte-moi tes peines et tes fautes. J'y chercherai un remède. » Cette exhortation paternelle triompha de la dissimulation du petit chevrier. Il ouvrit son cœur et confia ses secrets au bénédictin, en lui racontant ses amours, son arrestation, sa fuite, son arrivée à Catane et ses projets de fortune. Le moine souriait bénignement. Mais lorsque Ciccio en vint à parler de sa dernière rencontre avec d'autres agents, et de la juste accusation de l'ordinateur, le visage du saint vieillard devint plus sévère. Le moine fixa sur Ciccio un regard pénétrant. « Jeune homme, dit-il, cette épingle d'argent et cette ceinture, les as-tu vraiment reçues et non pas volées ? Je le jure par mon salut. Je ne voudrais point risquer mon âme pour si peu de choses. La belle Cangia m'a donné ces objets en présence de son père. » Le moine frappa ses deux mains l'une contre l'autre. « Oh, justice ! S'écria-t-il, est-ce ainsi qu'on te respecte ? Les insensés ! Pardonne-leur, grand Dieu, ils ne savent ce qu'ils font. Mais ne pardonneras-tu pas aussi le mal causé par leur folie et leur méchanceté ? Mon enfant, ajouta le bénédictin, je te sauverai. Je vais parler de toi au Père supérieur, et j'obtiendrai la permission de te cacher dans ce couvent. Mais nous ne pouvons pas donner asile à ta mère. Et moi, dit Ciccio, je ne puis abandonner cette pauvre vieille entre les mains de ses persécuteurs. Il faut la sauver ou succomber avec elle. As-tu du courage ? Reprit le moine. Laisse-toi conduire à Noto. Je te recommanderai un avocat et ton innocence sera reconnue. Oh, mon innocence ! Il s'en embarrasse fort peu. Il n'est point d'innocent aux yeux des juges carthaginois. Sicilien que tu es, n'oublieras-tu jamais ta haine et tes préjugés ? Ma haine, répondit Ciccio avec exaltation, je n'y songeais pas. Et ce sont eux qui m'en ont fait souvenir. Ne pouvait-on me refuser la main de ma maîtresse sans m'accuser d'un vol que je n'ai pas commis ? Dois-je aimer ceux qui en veulent à mon honneur, à ma vie ? À quoi me réduisent-ils ? À me laisser jeter en prison, à me faire brigand ? Je le serai, mon père. » Le moine baissa la tête. « Mon fils, dit-il après un moment de silence, c'est assez d'être fugitif et contumace sans te faire brigand. Garde au moins ton innocence. Ne donne pas raison à tes ennemis en commettant des crimes. Cette crise passera et des temps meilleurs viendront. Retire-toi dans les montagnes. Je vais écrire au père supérieur d'un couvent de Nicosia. Tu trouveras dans ce couvent secours et protection. Le bon bénédictin remit à Ciccio une lettre de recommandation et lui souhaita un heureux voyage en lui promettant de prier Dieu pour lui. Donna Barbara commençait à s'inquiéter de l'absence de son fils. Elle attendait devant sa maison lorsqu'elle vit accourir Ciccio suivi de la fidèle Greta. « Partons, dit le petit chevrier, ne perdons pas une minute. Je viens de rencontrer près de la porte Ferdinanda l'ordinario qui apporte de notre l'ordre de nous arrêter. Prenez les devants, montez dans l'Etna. J'ai une lettre de recommandation d'un bon moine bénédictin. N'oublions pas non plus l'Ave Maria de l'honnête Trajan. Avec cela, nous échapperons à l'ennemi. Que parles-tu de lettres et d'Ave Maria ? Demanda la vieille. Je vous expliquerai la chose en voyageant. Ne vous amusez pas à bavarder. Je vous rejoindrai par un détour sur la route de Nicolossi. Car Greta et ses cornes d'or sont trop connues pour que je l'amène par les rues. Au milieu des discours incohérents de son fils, Barbara comprit qu'il fallait partir. Quoiqu'il lui parût incroyable que la justice pût l'atteindre à 15 lieues de distance, la pensée du meurtre de l'ordinateur lui revint à l'esprit, et la vieille jugea prudent de s'éloigner encore de quelques milles. Tout en murmurant, elle se mit en route, son bâton de chêne à la main. Lorsqu'elle fut partie, Ciccio s'arma de sa carabine, seul meuble qu'il eût apporté de Florida. Il sortit ensuite avec sa chèvre et se cacha dans le cabaret des muletiers pour y attendre la nuit. Bien lui prit d'avoir abandonné son domicile, car au bout d'une heure, deux gendarmes s'y présentèrent. Les voisins s'assemblèrent devant la porte et rirent de tout leur cœur en voyant que le gibier s'était enfui. « Seigneurs gendarmes, dit une commère, la chèvre aux cornes d'or prédit l'avenir et sait les remèdes de toutes les maladies. Comment avez-vous pu croire qu'elle se laisserait conduire en prison ?»« Vous pensez donc, demanda un gendarme, que la commission est périlleuse ?» Oh, si périlleuse, répondit un marchand de fromage, que je voudrais pas la faire pour 6 écus à colonne. Oh, eh bien, allons-nous-en. Nous dirons que la chef s'est encore envolée, comme sur la route de Noto. C'est point notre faute si cette bête a le diable au corps. Mais nous sommes prêts à certifier qu'il y a une légion de diables, dirent les assistants. Les gendarmes, sentant leur conscience en repos, s'en retournèrent comme ils étaient venus. Cependant, à la chute du jour, l'un d'eux, en se promenant dans la rue de l'Etna, vit un garçon qui se glissait le long des murs, suivi d'une chèvre qu'il était facile de reconnaître à ses cornes dorées. Ne consultant que son courage, le gendarme se jeta sur le jeune homme et le saisit par la manche de sa chemise. Au lieu de chercher à s'enfuir, Ciccio prit l'ennemi entre ses bras et lui appuya son menton sur la poitrine afin de le renverser. Une lutte acharnée s'engagea. Le gendarme était robuste, mais le petit chevrier était plus souple et plus adroit. Pendant la bataille, l'intelligente Greta comprit le danger de son maître. Elle recula de 3 pas en se cramant, passa derrière le gendarme et lui donna dans le jarret un coup de corne si furieux qu'elle lui fit perdre l'équilibre. Ciccio, ayant terrassé son ennemi, lui administra 2 coups de poing dans le visage qui l'obligèrent à lâcher prise. Le petit chevrier se dégagea, saisit sa veste et sa carabine qui étaient tombées pendant le combat et joua les jambes avec son agilité de 16 ans. Les rues de Catane sont larges et droites. On y peut suivre des yeux pendant longtemps un homme qui s'enfuit. Mais, comme dans toutes les grandes villes de la Sicile, Catane n'a pas de banlieue. On passe sans transition d'une suite de palais à un désert de lave ou à un champ. Des gens qui s'étaient arrêtés au bruit de la lutte reconnurent Ciccio, emporté sur les ailes de la peur. Au bout de la rue de l'Etna, on le vit sauter par-dessus une haie et se lancer dans un dédale de sentiers où il devenait inutile de le poursuivre. Le gendarme n'avait d'ailleurs aucune envie de courir après le fugitif. Il retourna en boitant à sa caserne, où il raconta le terrible combat qu'il venait de soutenir, et comme quoi la chèvre endiablée l'avait presque percé de part en part avec ses cornes de métal. La cloche de Sainte-Agathe de Catane sonnait le carillon de minuit qui ressemble à un glas funèbre lorsque Ciccio et sa mère, assis sur le penchant de l'Etna, regardèrent du haut de la rampe de Nicolossi les lumières qui brillaient encore dans la ville comme des étincelles sur la cendre d'un papier. Ciccio étendit son bras d'une façon tragique en s'écriant « Je prends à témoin le ciel et la nature entière. Je voulais vivre honnêtement et sans péché. Mais puisque la rage des méchants, la justice des étrangers et l'infidélité de ma maîtresse m'ont réduit au désespoir, allez, j'accepte la guerre. » « La guerre, la guerre !» répéta la vieille Barbara en agitant son bâton d'un air forcené. « La guerre est déclarée aux Carthaginois. La guerre avec le fer et le feu, le couteau et la carabine. » Chapitre 7. Le charmant village de Nicolosi est situé entre la partie cultivée de l'Etna et la zone appelée Bosco, pays sauvage et couvert de bois. Les habitants de Nicolossi sont les cultivateurs de ces jardins productifs et de ces riches vignobles qui couvrent la base de la montagne. Ciccio et sa mère, accompagnés de la chèvre jaune, trouvèrent le village entier plongé dans le sommeil. La nuit était chaude et belle. Ils se couchèrent sous un hangar public, espèce de caravansérail toujours ouvert, où les bestiaux et leurs guides viennent chercher l'hospitalité en se rendant des pâturages au marché des grandes villes. Le jour commençait à colorer de rouge la tête blanche de l'Etna quand nos trois aventuriers demandèrent à un paysan la maison du muletier Gaétan. On les conduisit à une écurie dans laquelle ils ne virent d'abord que 6 mules et un chien. Ciccio, pour se déconformer aux instructions du vieux Trajan, dit à haute voix « Ave Maria !» Du milieu d'un tas de paille sortit une figure d'homme à moitié endormie qui répondit en se frottant les yeux « Gracia plena !»« Que me veux-tu, jeune homme ?» « Je viens vous parler de la part d'un autre agent de Noto. Sois le bienvenu, je suis à toi dans un moment. » Le muletier se lava le visage et les mains dans une seccia et se tournant vers le petit chevrier. « Je te connais, lui dit-il, tu es Ciccio. Cette respectable dame est ta mère, brave Sicilienne s'il en fut. « Et voici ta fameuse chèvre aux cornes d'or. Je m'attends depuis 8 jours à te voir arriver ici. Tu as fait une imprudence en t'arrêtant à Catane. Ne sais-tu pas que la justice a le bras long et le nez fin? Elle te suivra pas à pas comme un limier suit un loup. Mais nous trouverons des gîtes où les limiers ne t'atteindront point. Il y a un Dieu pour les gens simples. Dont la prudence t'a servi. La chèvre aux cornes d'or a frappé d'étonnement le vulgaire et de crainte les gendarmes. Sa réputation de sorcellerie nous sera profitable. Bien des petits tours passeront sur son compte. Illusion, viande creuse, jeune homme. Tant que les ordinateurs et les autres oiseaux de proie nous viendront de là-bas, tu n'as point de quartier à espérer. 50 galères, voilà ton lot si tu es pris. Une fois qu'on a volé une épingle d'argent d'un écu, autant vaut détrousser à l'archevêque, il n'y a plus de bénéfice. Mais je n'ai pas volé cette épingle d'argent, interrompit Ciccio en rougissant. Oui, c'est vrai, je me rappelle ton affaire. On t'a injustement accusé, mais il importe, on te trouvera, si on le veut, que tu as emporté dans ta poche l'éléphant de Catane et le polvi de Syracuse. Si tu dois être condamné, que ce soit au moins pour quelque chose. N'ai-je pas raison, sage dame Barbara ? Oui, s'écria la vieille avec exaltation. Trois fois raison, et quand Gaetano, pour cette épingle que nous n'avons pas volée, rendons-leur 100 lames de stylet dans le ventre et 100 balles de plomb dans la tête. Mieux que cela, reprit Gaëtan, ne leur rendons rien, et prenons dans leur poche 100 écus, 1000 écus et davantage s'il se peut. Modérez votre ardeur, dame impétueuse. Il faut aller doucement. Un corps mort embarrasse, et nous devons éviter autant que possible les taches rouges aux mains. Donc il n'y a que procès-verbaux, chiffons de procédure, flâneries de gendarmes, ce sont des bagatelles qui ne tirent pas à conséquence. Mais quand les compagnies de fantassins viennent faire la villeggiatura dans nos montagnes, l'opéra devient seria, la musique malsonnante et les potences font de nos carcasses des balanciers de pendules. Basta, c'est assez causé. Vous n'êtes pas en sûreté à Nicolossi. Reposez-vous sur cette paille et partez ensuite pour Aderno. Vous dormirez à l'auberge de la Gallina. Demain, vous ferez une longue marche et ne manquez pas de vous rendre le soir à Saint-Philippe d'Argyre. Là, vous demanderez Don Polyphème au cabaret del Fagiano. Don Polyphème est notre maître à tous. N'allez pas l'ennuyer avec des paroles inutiles. Si vous parlez un peu brusquement, ne vous en fâchez pas. Obéissez à tous ses commandements. Ayez l'œil aux aguets, l'oreille ouverte, le pied léger, et vous verrez ce que vous verrez. N'oubliez pas surtout de le saluer par le mot d'ordre « Ave Maria ». Allez, dormez une heure et n'attendez pas que les uniformes paraissent sur la route de Nicolossi. Barbara, transportée d'enthousiasme, en pensant que son fils allait devenir brigand, déclara qu'elle ne sentait pas la fatigue et voulut partir immédiatement pour l'Aderno. En conduisant ses mules à l'abreuvoir, Gaëtan mit les trois voyageurs dans leur chemin et leur souhaita bonne chance. Ce chemin n'était qu'un mauvais sentier, encombré de pierres et de ronces, envahi par des masses compactes de cactus et coupé par des ruisseaux. Mais comme ils descendaient sur le versant occidental de l'Etna, nos aventuriers marchaient assez vite. Ils voyagèrent de compagnie avec un ânier qui leur servit de guide pendant une heure, puis avec un charbonnier qui sortait du bosco, et finalement, après s'être égarés deux ou trois fois, ils arrivèrent avant le soir au bourg d'Aderno. Grâce à la protection de Don Gaëtan, l'hôte de la Gallina se mit en frais de politesse. Il servit à nos aventuriers un plat copieux de choux et une fiasque de vin de l'Etna. Ciccio dormit dans une auge dont on fit un lit moelleux en l'emplissant de paille. Barbara eut pour chambre une soupente noire dans laquelle on étala un superbe tas de filasse, et Guetta coucha sur la litière à côté de son maître. Cette nuit de délices remit à neuf les jambes des trois voyageurs, et le lendemain, avant l'aurore, ils partirent pour Saint-Philippe, dispos et en belle humeur. Vers le milieu de la journée, ils quittèrent le penchant de l'Etna pour entrer dans les montagnes de l'intérieur de la Sicile. Après le village de Regalbuto, où ils se reposèrent pendant la chaleur, ils trouvèrent ces sites sauvages et magnifiques, ces gorges et ces vallées charmantes où la nature a pris à tâche de réunir ses appâts les plus variés. La végétation du nord mêlée à celle du midi forme les plus étranges contrastes. Le chêne étend ses branches vigoureuses non loin des rameaux de l'oranger, le platane et le tulipier vivent en bon voisin avec le châtaignier. Sur les hauteurs, on aperçoit quelques pins parasols et plus bas, le laurier rose et le grenadier ouvrent leurs fleurs délicates. Les figuiers d'Inde s'entrelacent comme des serpents et leurs larges raquettes forment des groupes bizarres comme les batailles de Callo. Ciccio et sa mère grimpaient avec ardeur dans ces déserts montueux en suivant les bords d'un torrent, et la chèvre, animée par un vague parfum de liberté, dépensait en gambade le superflu de ses forces. L'Angélus était sonné depuis longtemps quand les trois voyageurs arrivèrent au cabaret del Foggiano, situé lors des murs de Saint-Philippe d'Argyre. Ciccio ayant demandé Don Polyphème, l'hôte du cabaret indiqua du pouce de sa main droite une table devant laquelle étaient assis quatre gaillards de tailles athlétiques. Le petit chevrier s'avança d'un air résolu, en prononçant à voix basse l'Ave Maria qui lui servait de passeport. L'un des quatre buveurs se leva en répondant « Gracia plena » et Ciccio vit en face de lui le personnage respectable de Don Polyphème. C'était un colosse couleur de réglisse, avec des yeux de taureau, des épaules d'éléphant et une barbe de bouc. Sa large bouche, à demi voilée par une épaisse moustache, rousse, avait une expression singulière de férocité épicurienne. Une forêt de cheveux crépus lui poussait jusqu'à la moitié du front. Son nez aquilin et ses mains petites comme celles d'une femme corrigeaient par un peu de distinction la brutalité de sa personne. À travers sa chemise entrebâillée, on voyait sa poitrine velue. À son dos était attaché un fragment de robe de chambre grossièrement taillé en manière de manteau et qu'il avait volé dans quelque bagage. Un couteau de chasse à poignée de corne pendait à son côté, fixé dans la ceinture de laine rouge au moyen d'un bout de ficelle. La gaine de ce couteau était d'écorce d'arbre et se terminait à la pointe par un gros dé à coudre. Des bandelettes de drap vert croisées sur les jambes et des chaussures en forme de coquille complétaient cette rare toilette. Les trois compagnons de Polyphème étaient vêtus d'une façon au moins hétéroclite. L'un portait un chapeau de soie luisant, l'autre un gilet de velours, et le troisième un habit fait à Paris ou à Londres, mais dont il avait coupé les manches pour être plus à l'aise. Ce mélange de neuf et de guenilles, où le butin jurait à côté du dénuement, témoignait de la profession de ces galants hommes et composait en somme la réunion la plus brigande qui fut jamais. Don Polyphème examina Ciccio des pieds à la tête en fronçant le sourcil, et comme s'il eût voulu lire au fond de l'âme de ce novice, Il pria l'un de ses compagnons d'approcher la lumière. L'un des bandits prit sur la table une mauvaise lampe à deux becs et la soutint à la hauteur du front du petit chevrier. « Jeune homme, dit le chef avec ironie, tu es un nigaud. Tu as donné dans un panneau à attraper les lapins. Notre compère Ignace, le sorcier, a besoin du sang d'un garçon de 16 ans pour faire un baume magique et on va te couper la gorge dans un moment. »« Nous verrons, répondit Sitcho sans changer de visage. Cependant, je te ferai grâce de la vie si tu veux nous abandonner ta vieille mère pour qu'on la saigne en ton lieu et place. Vous ne toucherez Barbara du bout du doigt qu'après m'avoir coupé en morceaux. Tout grand que vous êtes, je ne vous crains pas. Cette réponse-là vaut mieux qu'un sermon en 3 points. « Maître Ignace, que penses-tu de ce petit compère ?»« Il paraît sage comme Ulysse et fier comme Bajazet, » répondit Maître Ignace. « Jeune homme, reprit le chef, je vois que tu as du cœur. Mais si on te serrait les pouces avec une corde en te demandant ce que tu ne voudrais pas dire, comment se comporterait ta langue ?» Ma langue serait liée du même cordon que mes pouces, ou si elle cédait au mal, ma volonté resterait derrière elle, qui lui soufflerait ses réponses, et si la vérité était jaune comme un citron, je saurais la montrer blanche comme le lait, ou tout au moins de couleur douteuse comme un fruit vert. Tu as mis le doigt sur le nœud, jeune homme. « Si j'avais un fils, je le voudrais comme toi, beau, robuste et savant de naissance. Nous te dispensons de l'apprentissage et tu auras part à la première capture. » Don Polyphème se tourna vers ses compagnons. « Seigneur cavalier, leur dit-il, je présente à vos excellences le jeune Sitcho, garçon plein de courage, qui vient de répondre à mes questions comme un livre ouvert. Pour frapper les imaginations sensibles, il nous manquait un brin de sorcellerie. Le voilà trouvé. Cette chèvre aux cornes d'or est déjà célèbre dans la plaine de Catane et l'intendance de Noto. Elle répandra la terreur dans nos montagnes. À notre première expédition, nous la mettrons à l'avant-garde. J'ai ouï dire qu'autrefois, des brigands ont ainsi tiré un grand parti d'un taureau, que le général Thésée prit la peine de venir tuer lui-même par le bateau-poste de Naples. Et si bien donc que nous allons vider quelques fiasques en l'honneur du jeune Sitcho, de la digne mère qu'il a mis au monde et de sa chère philosophie. On apporta des fiasques d'excellents Marsala, de Calabrese et de Moscatel et de Syracuse. Sitcho n'en eut pas plus tôt avalé 3 verres qu'il se sentit le feu aux oreilles, le brigandage dans le cœur et autant d'estime pour Don Polyphème que si ce bandit eût été Pluton en personne. Maître Ignace, échauffé par le vin, voulut à son tour faire la leçon au novice et lui enseigna d'une façon diffusée et peu claire comment on s'y prenait pour arrêter une chaise de poste, comme quoi on se comportait poliment à l'égard des femmes, sans cruauté à l'égard des hommes dociles, et impitoyablement envers ceux qui s'avisaient de résister, comme quoi on ne devait point voler de bestiaux, à moins qu'ils ne fussent bien connus pour appartenir à un fonctionnaire public. » Le paysan, ajouta Maître Ignace, étant notre sauveur dans les moments de danger, il faut jamais le molester ni faire la cour à sa femme. Un honnête brigand doit payer comptant ce qu'il dépense à l'osteria, laisser passer le piéton et les ânes, n'arrêter les mules qu'à bon escient, baiser la main aux jeunes filles, aux jolies filles, et respecter les curés pour obtenir l'absolution le jour où on le mène à reculons vers le poteau suprême. Les autres compagnons de Don Polyphème voulurent aussi faire les beaux esprits, mais ils ne dirent que de lourdes plaisanteries qui auraient inspiré du dégoût à Ciccio si le vin n'eût troublé ses sens. Pour le divertissement de ses nouveaux amis, le petit chevrier donna une représentation des gentillesses de Getta. La chèvre jaune eut un succès plus brillant que la première danseuse d'un théâtre royal. Il ne lui manqua pour être rappelé 20 fois sur la scène au milieu d'une pluie de bouquets que des spectateurs d'une condition plus élevée. Il restait à peine quelques gouttes au fond des bouteilles lorsqu'un 5e bandit entra tout hors d'haleine dans le cabaret. « Seigneur cavalier, dit-il, des feux sont allumés sur les hauteurs dans la direction de Stilla. Ce sont des voyageurs de Catane qu'on nous annonce. « Va bene, dit le chef en chargeant sa pipe. Ciccio le mignon fera ses premières armes demain. »